Vous êtes sur RTL.
RTL dimanche soir, le Mag Poll.
Vincent Parisot.
Le magazine politique de la rédaction d'RTL avec ce soir l'essentiel du grand jury RTL, Le Figaro et LCI de Valérie Pécresse. Il y aura le débrief de Benjamin Sportouche qui a mené le débat. Le reportage Mag Poll sur le fonctionnement de l'Assemblée et du Sénat par temps de Covid et de confinement. Le rêve américain dans la politique française avec les archives de Jean-Mathieu Pernin. Et puis pour être complet, quand même, la candidature du jour, ce devrait être ce soir sur TF1 dans le journal de 20h. Jean-Luc Mélenchon devrait se déclarer officiellement.
La trajet.
Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, était donc à la mi-journée l'invitée du grand jury RTL Le Figaro et LCI. Valérie Pécresse qui a créé le mouvement politique libre, droite, centre-droit, à qui on prête des ambitions présidentielles, est bien sûr revenue sur la victoire de Joe Biden aux États-Unis, mais elle a aussi insisté sur la nouvelle présidente, Kamala Harris.
La trajectoire de Kamala Harris est une trajectoire digne d'admiration et de respect. C'est une femme qui a été une extraordinaire procureure, qui a fait de la justice son combat. Elle a eu un parcours d'une femme très libre, qui a parfois d'ailleurs pas suivi les convictions de son propre camp républicain, donc de son propre camp démocrate, justement, en étant une femme d'ordre. Et je crois que c'est un plafond de verre qui saute aux États-Unis.
Et il peut sauter en France.
Ce que je crois, c'est qu'en Europe, quand on regarde ce que fait une Angela Merkel, par exemple, en Allemagne, dans sa gestion de la crise économique, dans sa gestion de la crise sanitaire, on se dit que peut-être la France aurait besoin d'une Angela Merkel française.
Vous pourriez être cette Angela Merkel ?
En tout cas, à ce stade, ce que je suis, et vous le savez, c'est une femme libre qui va dire librement ce qu'elle pense et qui, dans son action, à la place qui est la sienne, en tant que présidente de région, eh bien, essaye de faire de la politique par la preuve.
Mais vous souhaitez qu'il y ait une femme présidente en 2022 ?
Ce que je souhaite, certainement pas n'importe quelle femme présidente, parce qu'elle est une femme. Excusez-moi, monsieur Sportouche, de vous dire que l'élection de Marine Le Pen est certainement pour moi un moteur dans mon engagement politique, un moteur pour s'opposer au populisme et surtout à une présidence féminine qui pourrait conduire le pays à la faillite.
Voilà, une femme à l'Élysée, mais pas Marine Le Pen. Valérie Pécresse pose donc ses jalons. On va y revenir dans quelques minutes avec Benjamin Sportouche. Mais évidemment, la présidente de l'Île-de-France a largement commenté la situation sanitaire, les décisions du gouvernement, à commencer par ce deuxième confinement.
Nous n'avons pas le choix que de reconfiner le pays. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'État a tout fait bien. Je crois qu'il a voulu tout faire tout seul, et qu'en voulant tout faire tout seul, eh bien, il a été sur certains points défaillant. Pour moi, il y a trois défaillances qui sont assez manifestes. D'abord, on n'a pas tiré les leçons du premier confinement. Il y avait des injustices dans le premier confinement, par exemple les grandes surfaces qui restaient ouvertes, totalement ouvertes, alors que les petits commerces étaient fermés. Il y avait des injustices, on n'en a pas tiré les leçons. La deuxième chose, c'est que je crois qu'on n'a pas suffisamment cet été anticipé les besoins de l'hôpital dans cette deuxième vague. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'idées qu'on peut mettre sur la table pour soulager, là encore, l'hôpital. Et troisième chose, on a échoué entre septembre et octobre dans la stratégie tester, tracer, isoler. Il fallait massivement tester, très rapidement tester. Et là, je pense que si l'État s'était appuyé davantage sur des partenaires, si la bureaucratie n'avait pas fait son œuvre, eh bien, sans doute, on aurait pu faire plus vite et mieux. Ce qui s'est passé en septembre et en octobre, c'est qu'il y a eu un encombrement de tests. Et vous le savez très bien, on a mis 2 ou 3 jours à se faire tester et 2 ou 3 jours à obtenir les résultats. Ce qui veut dire que les cas contacts, ben pendant 6 jours, ils étaient librement en libre circulation. Ils ne savaient pas eux-mêmes qu'ils étaient cas contacts. Donc on a eu une thrombose du système de tests PCR virologique en septembre-octobre. Enfin, les tests antigéniques, ont été validés. Maintenant, il faut les déployer à très grande vitesse, parce que ces tests antigéniques, ils permettent d'avoir en 20 minutes le résultat.
Mais
donc, ils sont très, très utiles.
Mais ce n'est pas ce que fait le gouvernement, de votre point de vue ?
Eh bien, le problème, c'est qu'on a des goulets d'étranglement. Quel goulet d'étranglement ? Les préleveurs. Les préleveurs, on manque de préleveurs. On n'a plus assez d'infirmières. Et donc, le gouvernement vient d'accepter, la semaine dernière, enfin, que les secouristes formés puissent prélever, que les pharmaciens aussi puissent le faire. Donc, qu'est-ce que va faire la région ? Nous allons, avec l'Agence régionale de santé, organiser la formation de 2000 secouristes pour obtenir 2000 préleveurs.
Voilà donc pour le constat les initiatives de Valérie Pécresse sur la situation sanitaire. Et puis, autre sujet d'actualité abordé par la présidente de l'Île-de-France, la lutte contre le terrorisme islamiste. Les propositions, notamment, qui ont été faites par certains pour neutraliser les terroristes potentiels avant qu'ils n'agissent ou ceux qui finissent leur peine sans avoir changé de conviction. L'idée de les enfermer dans un Guantanamo, disons à la française, avait même été évoquée. Valérie Pécresse pense surtout que c'est notre droit qui doit évoluer.
Il ne faut pas se précipiter vers des solutions simplistes et pas efficaces et pas forcément crédibles. Il faut reprendre tout à zéro. Parce que ça ne répondra pas à toutes les questions que nous devons nous poser et aux nouveaux dispositifs juridiques que nous devons mettre en œuvre. Parce que la vérité, aujourd'hui, on est à la veille de célébrer le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Mmh. Moi, je ne conçois absolument pas, pardon de vous le dire, j'ai été juge administratif avant de faire de la politique, j'ai été parlementaire, je ne conçois à aucun moment que notre Constitution ait été écrite par le général de Gaulle pour protéger davantage les ennemis de la France que les Français. Voilà. Donc, on n'a pas un état de droit, on n'a pas un droit qui a été conçu pour protéger davantage nos ennemis que nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de lois qu'il faut réussir à faire passer dans notre droit positif. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas. Je vais vous donner deux ou trois exemples.
Quitte à changer la Constitution, non ?
Deux ou trois exemples. Le premier, consulter de manière habituelle des sites djihadistes. Ça devrait être un délit. Le Parlement l'a voté deux fois. Le Conseil constitutionnel a annulé deux fois la loi. Propager de la haine sur Internet de manière anonyme, ça devrait être interdit. Ça devrait être impossible. On a fait une loi qui était peut-être mal écrite, mal rédigée, mais enfin, elle a été censurée. Les djihadistes, vous en parliez, les djihadistes qui sont aujourd'hui emprisonnés et qui n'ont absolument pas changé de conviction pendant qu'ils étaient en prison. Ils ne doivent pas pouvoir sortir, il doit falloir faire une peine de sûreté comme on le fait pour les psychopathes qui criminels sexuels. Cette loi a été votée, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel.
Comment fait-on pour que le Conseil constitutionnel arrête de censurer ces lois au nom de la défense de l'État de droit ?
D'abord, je crois qu'il va falloir qu'il y ait une vraie collaboration. Il faut que le législateur prenne des lois qui ne se fassent pas censurer. Mais il faut aussi que le Conseil constitutionnel fasse évoluer sa jurisprudence. Il en a totalement le pouvoir de se dire que la gravité de la menace autorise aujourd'hui des lois qui soient des lois plus répressives. C'est une conception, un aggiordamento que le Conseil constitutionnel doit faire. S'il ne le fait pas, nous n'aurons pas d'autre choix que de modifier la Constitution.
Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Valérie Pécresse. On y revient avec celui qui a animé l'émission. Bonsoir Benjamin Sportouche.
Bonsoir Vincent.
Alors Valérie Pécresse, c'est vrai qu'on en parle comme d'une potentielle candidate à la présidentielle. Est-ce que c'est le costume qu'elle avait revêtu aujourd'hui ?
Franchement, il y a très peu de suspense. Hein. Quand on entend Valérie Pécresse, on se rend bien compte qu'elle est dans les starting blocks, hein, qu'elle va y aller. Elle dit juste, et d'ailleurs c'est une manière de se trahir, que c'est une question de calendrier. Elle nous dit, vous avez votre calendrier, moi j'ai le mien. Bah oui, donc son calendrier n'est pas de se déclarer aujourd'hui, c'est de se déclarer plus tard. Et d'ailleurs, quand elle parle de Kamala Harris qui vient d'être nommée vice-présidente, désignée, élue vice-présidente des États-Unis, elle y voit une source d'inspiration. Donc on a très bien compris que son ambition était là. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui dans les circonstances actuelles, eh bien, de mettre en avant cette ambition. Ce qu'elle veut, c'est montrer par A plus B, ce qu'elle fait dans sa région. C'est son laboratoire. Donc, elle veut d'abord montrer qu'elle est en capacité de régler des problèmes concrets pour ensuite en faire le point d'appui d'une candidature.
Et elle a clairement dit qu'elle souhaitait une femme à l'Élysée, mais que son combat, son ambition, c'était aussi que cette femme ne soit pas Marine Le Pen.
Exactement. Donc, dès le début de l'émission, donc, qui est pour l'instant une femme, qui voit-on dans le paysage comme femme, qui pourrait s'imposer comme une candidate, qui pourrait prétendre à l'élection présidentielle et à la présidence, c'est Valérie Pécresse. Et donc, elle est en train d'incarner quoi ? Une droite modérée, parce que vous avez bien vu, elle n'a pas non plus tapé sur le gouvernement, elle est restée quand même nuancée sur le terrorisme, elle avance des propositions, parce que ça sera sa ligne régalienne. Elle veut réussir à fédérer la droite autour de cette nuance d'une droite modérée.
Voilà, vous l'avez dit, le chemin, il est étroit, c'est la raison pour laquelle elle ne sort pas le bazooka contre le gouvernement.
Oui, mais ça ne va pas être facile non plus parce qu'on a un président de la République en face qui est en train de flatter un peu cette droite-là. On voit bien qu'il est là et qu'il est en train de prendre comme thème de prédilection et comme nouveau chevaux de bataille la sécurité, le régalien, les frontières. C'est pour ça que cette semaine, il est allé en Espagne. Donc l'espace qui reste à la droite aujourd'hui, il est assez ténu. Il y a Xavier Bertrand aussi qui est sur cette ligne-là. On verra qui de Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse pourrait incarner cette droite. En tous les cas, on se rend bien compte que chez les Républicains, ils sont en train de penser que l'un ou l'autre pourrait être en effet cette incarnation.
Merci Benjamin. Le reportage MacPol à présent avec le Parlement sous Covid, car la deuxième vague est là et donc les mesures sanitaires s'appliquent également à l'Assemblée et au Sénat. Jacques Seret, bonsoir.
Bonsoir.
Cette semaine, les députés et les sénateurs ont dû, comme tous les Français d'ailleurs, se soumettre à de nouvelles règles.
Oui, c'est désormais la règle de la demi-jauge qui s'applique à l'Assemblée et au Sénat. Autrement dit, seule la moitié des parlementaires peut être présent lors des séances publiques. Du coup, chacun d'entre eux peut voter pour un de ses collègues absents. En commission, là où les lois sont examinées avant d'être débattues, la consigne est la même. Pas plus de 50% des membres en présentiel. Travailler à distance, c'est l'option choisie par la sénatrice de l'Indre, Frédérique Gerbeau, au micro de Vincent Derosier.
Moi, je vis avec des gens fragiles, donc je me dois d'être évidemment très soucieuse de respecter ces règles. Je remets en application le télétravail pour moi aussi. En tout cas, ça ne m'a pas empêché de légiférer, déposer des amendements, etc. Éviter de remonter à Paris et avec un présentiel dans ma permanence, c'est comme ça que je conçois mon mandat de parlementaire, d'être en proximité avec mon territoire.
Pour les collaborateurs parlementaires, les règles sont durcies. Un seul assistant par député est autorisé à entrer au Palais Bourbon. La haie d'honneur de la garde républicaine est également réduite à 4 musiciens. Sans les fameux tambours qui accompagnent l'arrivée du président de l'Assemblée.
Ouais, bon, ça reste tout de même moins strict que lors du premier confinement du printemps dernier.
Oui, en mars dernier, les députés ne pouvaient être plus de 24 dans l'hémicycle. Et seuls les textes liés à l'urgence sanitaire avaient été maintenus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est donc beaucoup plus souple. Éric Ciotti, député Les Républicains, y trouve son compte.
Je crois qu'un bon équilibre a été trouvé. On a bien avancé par rapport au mois d'avril, où l'arrêt total du fonctionnement du Parlement avait naturellement posé une question démocratique importante.
Mais les mesures actuelles font débat au sein des parlementaires. Pour Mathieu Orphelin, ex-député marcheur, il faut aller beaucoup plus loin.
Bien sûr qu'il faut faire différemment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi là, il y a une autre façon de faire. D'autres parlements l'ont fait avec succès d'ailleurs, y compris le Parlement européen, c'est d'avoir le vote à distance. 2 fois moins de députés, très bien. Mais enfin, on reste un des plus gros clusters de France. Plus de 120 cas ici, je crois. Donc pour moi, franchement, c'est incompréhensible que le vote à distance ne soit toujours pas mis en place à l'Assemblée nationale.
Si la crise sanitaire venait à durer plusieurs mois, plusieurs années, le Parlement n'aurait d'autre choix que de s'adapter. Un groupe de travail de députés planche actuellement sur ce dossier. Leur rapport est attendu à la fin du mois.
Un reportage MacPol signé Jacques Seret. Merci Jacques. Comme chaque week-end, dans le MacPol, Jean-Mathieu Pernin nous ouvre les archives. Bonsoir Jean-Mathieu.
Bonsoir.
Alors évidemment, l'élection américaine a mobilisé toutes les attentions. La classe politique en France s'est souvent inspirée de ce qui se passe sous l'Atlantique et forcément, ça vous rappelle quelque chose.
Oui, prononcer Amérique et d'un coup, c'est cotillon, chapeau et musique. L'imaginaire politique français a souvent rêvé de s'aventurer dans une campagne à l'américaine, comme on dit, et ça très tôt, en fait. Dès la première élection présidentielle française, en 1965, on parle de Kennedy à la française. Alors, il fait beaucoup d'affiches, il passe bien sur ce nouvel outil de communication qu'on appelle télévision. Un sourire à éblouir une banquise, c'est lui.
Nous entendons faire passer un souffle sur le pays, faire craquer toutes sortes de choses qui doivent disparaître et faire naître un élan nouveau.
Jean Le Canuet, et oui, Kennedy à la française, c'est ainsi que la presse présente le candidat centriste qui mettra De Gaulle en ballotage et fera carrière à Rouen. Le nom de Kennedy sera aussi employé pour Giscard et Macron. Vous êtes jeune, souriant et président. Ne cherchez pas plus loin, vous êtes Kennedy, mais français.
Voilà, le Kennedy à la française. Cela dit, les politiques ont adopté le style de campagne des Américains, surtout dans les années 80.
Exactement, fallait que ce soit grand, énorme et que ça en mette plein la figure. Gadget, meeting géant façon Jacques Chirac au Parc des Princes avec sportifs et artistes. Et même, comme tout bon candidat américain qui se respecte, on connaît cette de Jacques Chirac, mais François Mitterrand avait aussi sa chanson. Allons, c'est le moment.
Je ne me souvenais pas de celle-là, Mitterrand président.
Exactement, Mitterrand président, une fascination américaine, décrite d'ailleurs par Nicolas Sarkozy lors de son discours devant le Congrès américain en novembre 2007.
Dans l'imaginaire de ma génération, il y a la conquête de l'Ouest et Hollywood. Il y a Elvis Presley, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de citer dans ses murs.
Voilà, Elvis Presley, en tout cas inspirateur de Nicolas Sarkozy. Alors, si Bill Clinton a étonnamment avoué ses bons sentiments à l'égard de Lionel Jospin, le président français amoureux, véritablement, c'est Emmanuel Macron. Une bromance avec Barack Obama et ce coup de téléphone pendant la campagne de 2017.
Hello.
Hello, Mr. President. How are you?
It's Emmanuel?
Yeah, exactly.
Well, I'm doing very well. How are you? Can you hear me?
Yes, I hear you very well.
Voilà, very well. Emmanuel Macron qui imite souvent d'ailleurs le président démocrate, même dans ses mimiques. Alors avec Donald Trump, l'aura de l'Amérique a pâli et son nom résonne comme un reproche. En 2018, Laurent Wauquiez est pris en flagrant délit d'outrance verbale contre la classe politique actuelle devant les élèves de l'école de management de Lyon. Et pour Xavier Bertrand, pas de doute, on a passé un cap.
C'est une stratégie électorale, faut pas s'y tromper. Mais c'est du Trump, c'est pire que Trump. Certains veulent trumpiser la vie politique française. En disant de toute façon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on parle aux gens. Et dans ces cas-là, il faut mieux abattre les adversaires, les mettre à terre, plutôt que de faire le combat d'idées.
Voilà, l'Amérique est un exemple pour beaucoup de politiques français, mais si on peut éviter le genre de soirée électorale à la prochaine présidentielle, ce serait pas plus mal.
Oui, bon, pour l'instant, nous, on a les résultats le soir même. Merci Jean-Mathieu. Voilà, je regarde la pendule, 19-19. Dans un instant, on refait la planète avec Alain Bougrain-Dubourg.
Vincent Parisot,
RTL Dimanche.